Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 6 de la Sainte Sourate Bayana. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'oudhou billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Ceux les gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, ne cesseront pas jusqu'à ce que leur vienne la preuve. Un messager de la part de Dieu récite des feuilles purifiées, où sont des prescriptions droites. Et à ceux qui le livre a été donné, ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue. Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Dieu, en purifiant pour lui la religion en sincère, et d'établir l'office, et d'acquitter l'impôt. Et voilà la religion de droiture. Oui, ceux des gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, au feu de la gêne, pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de la Voix de la République islamique d'Iran en ce lundi 21 de juin de 2021. Merci infiniment d'être fidèle à la radio francophone iranienne. Bienvenue dans le journal. Washington doit immédiatement revenir à l'accord nucléaire. Il n'est pas question de discuter du programme balistique iranien, a martelé aujourd'hui au cours d'une conférence de presse à Téhéran le président élu iranien Ebrahim Raisi. Le secrétaire général du Hezbollah libanais a adressé un message de félicitations au nouveau président iranien. Nous sommes plus proches de la libération d'Al-Quds grâce à la résistance, a souligné le chef du mouvement de la résistance palestinienne Hamas à Gaza. C'était le principal titre de l'actualité. En voici le journal. L'Iran ne permettra pas de négociation pour le plaisir de négocier sur son programme nucléaire, a déclaré lundi 21 de juin le président élu iranien Ebrahim Raisi au cours d'une conférence de presse à Téhéran. Il a souligné que nos plans nucléaires de son pacifique font partie du domaine scientifique et sont conformes aux lois internationales. Washington doit immédiatement revenir à l'accord nucléaire. Il n'est pas question de discuter du programme des missiles balistiques, a-t-il martelé. Ebrahim Raisi a en outre dit qu'il ne veut pas rencontrer le président américain Joe Biden. La situation économique sera au centre des travaux de mon gouvernement, notant que Washington doit annuler toutes les sanctions injustes imposées au peuple iranien. Ebrahim Raisi a souligné la question de l'annulation des sanctions sera au centre de la politique étrangère de son gouvernement. Que Washington lève toutes les sanctions contre l'Iran pour confirmer sa crédibilité, a-t-il souligné. Le président élu iranien a aussi affirmé que le message transmis par la nation iranienne était aussi l'insistance sur les valeurs de la glorieuse révolution islamique. Le peuple a su transmettre un message réitérant sa détermination à poursuivre le chemin du défunt fondateur de la révolution, des l'imam Khomeini, que sa demeure soit au paradis, et sur le chemin de martyrs, en particulier le général martyr Soleimani, qui a été assassiné en janvier 2020 par les forces américaines en Irak. Et le président était élu iranien de conclure, nous consacrerons nos efforts afin de résoudre les problèmes de notre peuple en nous appuyant sur nos abondantes capacités et richesses. Le secrétaire général du Hezbollah libanais, Seyyed Hassan Nasrallah, a félicité le nouveau président iranien Ebrahim Raisi et l'a appelé à poursuivre l'appui à la résistance menée depuis la révolution islamique contre les agresseurs. Dans une lettre envoyée d'Ebrahim Raisi, le secrétaire général du Hezbollah libanais, Seyyed Hassan Nasrallah, a salué une grande victoire à un moment sensible et fatidique de l'histoire de l'Iran et de la région. Votre victoire a ravivé les espoirs du peuple iranien et des peuples de notre région à l'avenir pour faire face aux défis et les surmonter par votre direction révolutionnaire et vos efforts sincères et sous la direction de son éminence Sayyed Ali Khamenei et de ce conseil sage et inspirant, a-t-il souligné encore. Vous avez aussi été, monsieur le président, un grand soutien aux résistants et à l'axe de la résistance durant les différentes étapes de votre lutte et les différentes responsabilités que vous avez assumées, a ajouté Seyyed Hassan Nasrallah, assurant que la résistance et les libres voient en vous une forteresse et un soutien solide à la résistance contre tous les occupants, les envahisseurs, les agresseurs et les arrogants. Que Dieu vous protège et vous aide à assumer cette lourde responsabilité, à réaliser tous vos espoirs et à remplir sa promesse et de croyant honnête et patient de la victoire, l'honneur et la dignité, a conclu le secrétaire général du Hezbollah libanais, Seyyed Hassan Nasrallah. Le chef du mouvement de la résistance palestinienne Hamas à Gaza, Yahya Sinwar, a déclaré que le peuple palestinien est désormais plus proche de la libération de la ville d'Al-Quds occupée grâce à la résistance. Sinwar a déclaré que la bataille de l'épée d'Al-Quds a engendré un changement stratégique dans le conflit avec l'occupation, en allusion à l'équation des tirs de roquettes par la résistance en échange de tout bombardement israélien. Et d'ajouter, nous sommes plus proches d'Al-Quds, de sa libération et du retour des réfugiés grâce à la résistance. La bataille de l'épée d'Al-Quds est la dernière confrontation entre les factions de la résistance palestinienne à Gaza et Israël. Et M. Sinwar, de poursuivre, notre peuple avec toutes ses composantes a remporté la victoire le jour où il a éduqué ses enfants sur l'amour de la patrie et du sacrifice afin d'obtenir sa liberté. Nous avons eu une génération des brigades al-Qassam, des brigades al-Quds et de toutes les factions de la résistance qui ont remporté cette victoire. Celle-ci constitue un tournant stratégique dans le conflit avec l'occupation, a-t-il souligné. Vous avez remporté la victoire le jour où vous avez embrassé la résistance parce que vous avez été patient et avez enduré le siège et l'oppression, a-t-il expliqué, et de poursuivre à l'adresse des Palestiniens. Toutes les campagnes de diffamation et de normalisation n'ont pas affecté vos convictions. Al-Quds est resté ancré dans vos cœurs, a-t-il conclu. Un drone espionnage américain a été abattu en plein vol au-dessus de la province de Ma'arib, selon le porte-parole des forces armées yéménites. Yahya Sari a déclaré que la DCA de l'armée et le comité populaire du Yémen avait abattu un drone d'espionnage américain par un missile sol-air lorsque l'appareil était en pleine mission dans le ciel de la province de Ma'arib. Le drone accomplissait une mission d'espionnage au-dessus du quartier d'Al-Mashaja de la ville de Sirva dans la province de Ma'arib. Le moment de sa destruction a été filmé et sera bientôt rendu public, a écrit le porte-parole des forces armées yéménites sur son compte Twitter, et d'ajouter, les forces armées yéménites ne lésineront sur rien pour accomplir leur mission de protection de l'espace aérien du Yémen et de neutralisation des actes. Aussi, il y a 3 mois, l'armée yéménite avait abattu un MQ-9 au-dessus de la province de Ma'arib et on avait publié l'enregistrement vidéo. Les dirigeants de la zone de libre-échange continental africain, ZLECA, encouragent désormais la création d'un système de paiement panafricain pour faciliter le commerce intra-africain, a déclaré le secrétaire général de la ZLECA. Il a confié à l'agence chinoise Xinhua dans une interview que le système panafricain de paiement de règlement serait prêt d'ici la fin de 2021. Selon lui, le système panafricain de paiement et de règlement développé spécialement pour le commerce intra-africain et les paiements commerciaux est en cours d'expérimentation dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest. Le pilotage du système de paiement et de règlement dans six pays d'Afrique de l'Ouest se déroule très bien et d'ici la fin de l'année, il sera entièrement déployé, a-t-il affirmé, ajoutant qu'une fois achevé, ce système facilitera le commerce sur l'ensemble du continent et les entreprises qui co-commercent dans le cadre de la ZLECA pourront le faire sur la plateforme rentable. Cette plateforme est développée en collaboration avec la Banque africaine d'import-export pour faciliter les paiements et formaliser les énormes activités commerciales transfrontalières informelles sur le continent. Le gouvernement béninois veut promouvoir une meilleure protection des réfugiés à partir des vivants sur son territoire. Le gouvernement béninois a décidé de renforcer la protection des 1405 réfugiés et apatrides des vivants sur son territoire en vue d'améliorer leurs conditions de vie, a annoncé à Cotonou le ministre béninois de l'Intérieur et de la Sécurité publique Alassane Seydou. À travers un message radio diffusé à l'occasion de la célébration de la journée mondial et du réfugié, le ministre a indiqué que cette préoccupation du gouvernement béninois s'était traduite par la transmission au Parlement, en février dernier, du projet de loi portant statut des réfugiés et apatrides au Bénin visant à promouvoir une meilleure protection des personnes apatrides ou à risque d'apatrides sur le territoire béninois. En attendant le vote de cette loi portant des statuts des réfugiés, le gouvernement continuera de garantir les droits des réfugiés, de leur rappeler leurs devoirs, a-t-il souligné, précisant que cet article 6 de cette ordonnance stipule que les bénéficiaires du statut des réfugiés reçoivent le même traitement que les nationaux en ce qui concerne l'accès à l'éducation, les bourses, le droit du travail et les avantages sociaux. Dans la mise en œuvre de cette ordonnance, a-t-il poursuivi, les enfants réfugiés bénéficient également de la gratuité de l'école au même titre que les nationaux. En ce qui concerne l'accès à la santé, a-t-il expliqué, les réfugiés sont admis à souscrire aux prestations de la classe mutuelle de prévoyance sociale. Eh bien, chers amis, ici touche à sa fin notre journal d'information. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne.
Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du débat en ce dimanche 20 juin 2021. En Israël, les jours se suivent et se ressemblent après l'opération spectaculaire Épée de Routs qui a abouti en quelque sorte à la liquidation et à la mort politique de Benjamin Netanyahu. Son successeur, Naftali Bennett, en apparence, semble avoir adopté le profil bas face à l'axe de la résistance et à ses composantes. Mais à vrai dire, il n'a d'autre choix que de reconnaître son échec et l'échec d'Israël, en effet, face à la résistance. Et cet échec, non seulement sur le plan militaire, mais aussi sur le plan politique. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur ces ondes de choc qui sont multipliées, en effet, pour Israël sur le plan sécuritaire et politique. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
À l'image de tous les médias mainstream, l'Américain Axios ment quand il affirme dans son numéro du mercredi 16 juin qu'Israël de Naftali Bennett aurait décidé d'adopter le profil bas face à l'axe de la résistance, le Hezbollah, le nucléaire iranien et la Palestine, rien que pour s'adapter à la ligne de l'Américain Joe Biden. Le plus juste aurait été de reconnaître que l'entité sioniste y a été forcée, non guère par le couple Biden-Austin lui-même aux prises avec la résistance à travers tout le Moyen-Orient, en Irak, au Yémen et en Syrie, en terre et en air, tout comme en mer et ce, de la pire des manières, mais par cette spectaculaire opération militaire, épée de Rhodes, d'une complexité totalement inouïe, et dont les ondes de choc ont même atteint le Maghreb, où le chef du bureau politique du Hamas s'est rendu en première visite officielle, et plus précisément à Rabat, sous le barbe et le nez d'un ambassadeur d'Israël, sans ambassade fixe à qui aucun Marocain ne daigne louer un immeuble. Yoram Schweitzer, expert sioniste en guerre asymétrique, en basse intensité, et chercheur à l'université Tel Aviv, y voit même la manifestation par excellence de cette doctrine de guerre asymétrique, issue d'un pacte de défense commun interrésistance auquel a travaillé pendant plus de 20 ans le feu Soleimani. Aucune des composantes de l'axe de la résistance n'a adopté une posture identique au cours des 11 jours qu'a duré le conflit, mais le discours de ses principaux dirigeants, commandants du CGRI, Nasrallah, Sinwar, l'ont tous prouvé. L'opération répondait à une planification parfaitement synchrone, basée sur des expériences militaires acquises au gré des guerres successives par le Hezbollah, Ansarallah, Gaza et évidemment l'Iran. Ce plan fut pour le reste mise à exécution étape par étape et pendant seulement 11 jours pour un résultat terriblement alarmant pour Israël, à savoir la recentralisation de la question de Rhodes de façon à briser la dynamique de normalisation. Et l'article de conclure, Israël est-il désormais à même de disposer de ce formidable arsenal régulier qu'il possède? Bien sûr que non. Tous nos mouvements à Jérusalem devraient être mesurés, et c'est là notre plan des accords d'Abraham qui part en fumée. À la marche des drapeaux de mardi, l'armée israélienne et les manifestants ont été contraints à éviter les quartiers palestiniens et à les éviter soigneusement. N'est-ce pas là encore un retrait militaire et l'aveu de l'échec de nos coopérations avec la paix et son appareil de sécurité et de nos craintes de voir déjà la Cisjordanie basculer dans le camp du Hamas?
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité pour cette émission. Nous avons le plaisir d'accueillir depuis Damas Maître Arnaud Develay, juriste international et analyste politique, et depuis Bruxelles, M. Luc Michel, géopoliticien. M. Michel, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous, bonjour à Maître Develay. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Bonjour à nos téléspectateurs.
Monsieur Michel, l'ère Netanyahou terminée en Israël, à son successeur Naftali Bennett et ses alliés tentent de faire croire à l'ouverture d'une nouvelle ère, avec notamment cette volonté apparente d'ailleurs de s'adapter à la ligne du président américain Joe Biden. Est-ce que vous constatez, est-ce que vous partagez ce constat?
Qu'il est trop tôt pour parler d'une nouvelle ère. On sait que l'administration Biden, évidemment, est satisfaite de voir Netanyahu partir, mais Netanyahu, qui était proche des républicains de la droite de Donald Trump, et en particulier de son gendre Kouchner. Mais dans la réalité, Israël traverse une crise profonde qui est à la fois une crise militaire, qui est une crise éthique, qui est une crise politique. La majorité qui est arrivée au pouvoir, en fait, elle n'a qu'une caractéristique, c'est une majorité anti-Netanyahu. Elle est hétéroclite, les commentateurs de la presse française, ils parlent même d'une majorité de circonstances étranges. Effectivement, c'est un ensemble de petits partis qui va depuis des partis arabes et même un parti islamique jusqu'à des partis de la droite religieuse israélienne. Il y a donc un agenda, des agendas différents, des volontés différentes. Moi, je ne crois pas, on va un peu trop vite pour enterrer Netanyahou, qui reste avec un parti d'opposition solide, qui est au bord d'avoir justement la majorité, à quelques sièges près. On ne fait pas une majorité politique simplement sous la détestation de quelqu'un. Derrière tout cela, il y a effectivement une crise militaire profonde. La guerre qui vient de se dérouler, elle voit d'une part une parité stratégique exister entre l'axe de la résistance et Israël, mais elle voit surtout une forme de guerre asymétrique se développer. Le propre de la guerre asymétrique, c'est de dépasser justement les formations militaires classiques et de prendre en fait ce qui faisait leur force. À quoi sert la supériorité israélienne dans certains domaines? À quoi sert les 200 têtes clandestines de l'agenda nucléaire israélien dans ces conditions-là? On a vu en particulier que les accords énergétiques avec les nouveaux alliés arabes issus des accords d'Abraham, c'est-à-dire des gesticulations diplomatiques de la présidence Trump dans lesquelles la présidence Biden marche, tout cela n'avait plus beaucoup de consistance. Je pense plutôt que moins que le renversement de majorité, c'est le volet militaire de la crise israélienne qui doit être souligné.
Merci infiniment pour ces éclairages. Monsieur Michel, restez avec nous. On va tout de suite rejoindre à Damas Maître Arnaud Develet, juriste international et analyste politique. Maître Develet, bonjour et merci d'être en ligne avec nous.
Oui, bonjour à vous, bonjour aux téléspectateurs et bonjour à Monsieur Michel.
Maître Develet, Monsieur Michel l'a rappelé, Israël est aujourd'hui est confronté en effet à une profonde crise politique et surtout sécuritaire et militaire. Et l'une des principales raisons, en effet, de la manifestation au grand jour de cette crise, c'est bien entendu cette guerre, cette opération asymétrique qui s'est cristallisée, qui s'est manifestée au grand jour, notamment à travers cette opération spectaculaire épopée de Quds. Alors, quel a été, si on remonte en arrière, justement sur le plan sécuritaire, l'impact de cette opération, de cette guerre asymétrique, de l'axe de la résistance sur l'aggravation et l'intensification de cette crise sécuritaire et militaire en Israël?
Écoutez, elle a mis en avant avant tout l'absence de profondeur stratégique de l'État hébreu, dans le sens où, plus que jamais, maintenant avec la coordination des différentes composantes de la résistance, la nouvelle situation est maintenant extrêmement simple. Elle a été relatée plusieurs reprises par le secrétaire général de Hezbollah. Toute tentative de l'État hébreu d'essayer de remettre en question la sensibilité des forces sera confrontée à une opération coordonnée de toutes les présences. Et donc, par implication, les guerres régionales, certainement. La question qui se pose maintenant pour le nouveau gouvernement sioniste, c'est effectivement de savoir s'ils sont prêts à résoudre les déceptions internes de leur projet colonial en étant honnête avec eux-mêmes et en décidant de faire ce qu'on peut difficilement imaginer qu'ils vont faire, c'est-à-dire reconnaître l'échec du projet. Ou est-ce qu'ils vont jouer la fuite en avant avec les conséquences que l'on sait, à savoir effectivement un embrasement de la région? C'est là où effectivement la psychologie du nouveau Premier ministre israélien rentre en ligne de compte. Nous avons affaire à quelqu'un qui est en fait une veste d'un New-Yorkais, si je puis dire, au Moyen-Orient, qui arrive donc avec une certaine conception des choses, où avant tout, il lui est donné la possibilité de faire éclipser Netanyahou, si c'est encore possible, en allant plus vers la radicalisation de l'escapologie, quelque part aussi un peu. Sachant que, voilà, sur un plan militaire, les choses sont beaucoup plus nuancées que cela, et que toute erreur de calcul pourrait avoir des conséquences très fâcheuses.
Merci pour ces précisions. Maître Devel, restez avec nous, s'il vous plaît. Monsieur Michel, donc, en premier lieu, il s'agit d'une profonde crise militaire qui a eu, bien sûr, alors une retombée significative sur la scène politique en Israël. Dans un cadre plus général, quelles seront les retombées de cette crise sur le plan régional et plus précisément en ce qui concerne alors cette question, cette initiative américaine de normalisation des relations entre l'entité sioniste et une poignée de pays arabes, mais aussi en effet des pays africains?
Abraham, en fait, ils ont une caractéristique. Ils prétendaient mettre de côté, oublier la question palestinienne. Les gens qui se disaient soi-disant solidaires du peuple palestinien, en fait, trahissaient les intérêts des Palestiniens et les avaient abandonnés. Ce qui vient auquel nous venons d'assister, c'est le grand retour sur la scène géopolitique de la question palestinienne. D'une part, la question palestinienne a repris de la vigueur dans le monde entier. Il faut voir les manifestations pro-palestiniennes qui ont eu lieu, par exemple, en Europe. Alors qu'on pourrait croire la cause palestinienne oubliée. Mais surtout, aujourd'hui, la résistance palestinienne n'est plus isolée. Elle est partie de ce qu'on appelle l'axe de la résistance, c'est-à-dire qu'elle bénéficie d'un contexte géopolitique régional qui est celui du soutien de l'Iran, du soutien de la Syrie, mais surtout du soutien de ce qu'on a appelé les Hezbollah. Le Hezbollah libanais, le Hezbollah yéménite Ansarallah et le Hezbollah irakien et Hachesh Shalabi. C'est tout cela qui a changé, c'est-à-dire que pour avoir voulu liquider la question palestinienne, au contraire aujourd'hui, les Israéliens, les Américains et leurs alliés se trouvent devant une résistance palestinienne démultipliée par ces alliances géopolitiques régionales. C'est cela qui a profondément changé. Tout cela se développe dans un contexte stratégique qui est la perte de la supériorité stratégique israélienne, en particulier d'une part avec la guerre asymétrique, mais également avec les alliances de l'axe de la résistance. Vous constatez qu'à l'ONU, des pays qui jusque-là avaient une certaine neutralité vis-à-vis d'Israël, c'est-à-dire essentiellement la Russie et la Chine, cette fois-ci ont abandonné cette neutralité. Du côté de la Russie, c'est évident puisque les dirigeants russes reçoivent à Moscou le Hezbollah et les Yéménites ou les Irakiens, etc. Moscou est allié officiellement, stratégiquement, pour partenaire l'Iran, mais également les Chinois qui, jusque-là, privilégiaient des opérations d'investissement en Israël, condamnent Israël. C'est tout cela qu'il faut retenir du contexte aujourd'hui. On est véritablement dans une nouvelle ère géopolitique. Il est caractéristique d'ailleurs que les différentes officines de propagande israélienne, comme le MEMRI, le MEMRI, c'est un institut qui se présente un peu comme le Stratfor israélien, mais qui aurait été une officine du Mossad. Le MEMRI s'est lancé dans tous les horizons, dans une campagne de russophobie, de sinophobie. Ils réussissent même à éloigner les campagnes de russophobie, de sinophobie de l'Union européenne, à les présenter comme modérées à côté des théories israéliennes. Tout cela c'est suivi évidemment à Moscou et à Pékin, et ça aura des conséquences évidemment dommageables pour Israël.
Merci encore, Monsieur Michel. Maître Develay, donc la question de Rhodes a été recentralisée. On assiste à une nouvelle prise de conscience au niveau mondial par rapport à la cause et à la question palestinienne. Monsieur Michel l'a rappelé. On assiste également à ces nouvelles alliances géopolitique régionale, mais aussi au sein de l'axe de la résistance. Avec tous ces événements, qu'est-ce qui va rester de ce deal du siècle, de cette question, en effet, hyper médiatisée jadis d'ailleurs par le tandem américano-israélien de normalisation?
Ouais, je pense honnêtement qu'il ne restera qu'un petit phénomène, une espèce de commentaire en marge de ce qui se passe, que Luc Michel a parfaitement bien résumé. C'est-à-dire qu'en fait, les Israéliens et les Américains ont réussi le tour de force de sortir de leur neutralité la Russie et la Chine, ce qui est quand même quelque chose d'assez extraordinaire quand on y pense. La Chine, dans ce projet de nouvelle route de la soie, avait éventualisé l'intégration, par exemple, du port d'Haïfa. La visite de Pompeo a complètement changé cela. Il y a eu d'ailleurs des rapports comme quoi une confrontation houleuse avait eu lieu entre Pompeo et l'ambassadeur chinois. Cet ambassadeur chinois, d'ailleurs, qu'on retrouvait mystérieusement décédé 48 heures plus tard. Et tout d'un coup, les accords étaient entre les Israéliens et les Chinois étaient mis sur le côté, si je puis dire. Depuis dès lors, nous avons assisté effectivement à cette campagne essentiellement reprise par les médias sionistes en Occident, comme quoi les Chinois se livreraient à des exactions. On a entendu des termes comme génocide, d'un lancé ici et là. On a vu certains petits télégraphes sionistes en France se livrer à des joutes verbales sur Twitter avec l'ambassade de Chine à Paris. Donc on peut voir que les Chinois ont parfaitement compris la manœuvre, ils savent très bien à qui ils ont affaire maintenant. Et en cela, je pense que c'était une erreur stratégique fatale d'appliquer, si je puis dire, cette diabolisation à la Chine, parce que maintenant que la Chine a parfaitement compris quels sont les enjeux et qui sont les acteurs derrière cette campagne, ils vont prendre les mesures nécessaires et forcément ça va jouer de part, bien sûr, la nature de l'acteur chinois, mais aussi de part sa projection militaire et économique et géostratégique en tant que telle. Si on ajoute à cela que la tentative du sommet de Genève était pour les Américains de refaire une version signée de la période Nixon-Kissinger en essayant de penser qu'ils pouvaient scinder en deux les deux géants russo-chinois, c'est encore une fois une grosse erreur également, puisque maintenant, plus que jamais, les deux capitales sont parfaitement synchronisées. Quant au fait qu'ils assistent à une espèce de crash de l'hégémon américain et qu'ils se préservent des rebouts que cela va provoquer, bien sûr, en essayant de coordonner autant que peut se faire les effets délétères de cet hégémon qui n'avait pas accepté qu'il a perdu la partie, qu'il a péché par orgueil, qu'il a, au travers de son aventurisme impérial, dilapidé ses forces vitales, et que maintenant il s'agit surtout de contrôler, essayer de manager le crash en douceur afin que la sécurité internationale ne s'en retrouve pas altérée. Donc c'est un petit peu la configuration. On aurait parlé de ça il y a encore 2 ans, si c'était perçu comme assez fantasque, mais c'est la réalité aujourd'hui. Et ce n'est pas tant les choix de Moscou et de Pékin, mais surtout leur réaction par rapport à ce qui s'apparente à une irrationalité patente de la part de Washington et de la part de ses alliés occidentaux.
Merci encore. Une toute dernière question à M. Michel. M. Michel, vous avez parlé tout à l'heure de ces alliances géopolitiques régionales. Justement, dans ce contexte, on connaît le positionnement de la Russie par rapport à la question palestinienne, mais ces derniers temps, il paraît que la Chine aussi a de plus en plus tendance à s'investir dans ce domaine. Comment évaluez-vous le positionnement de Pékin à cet égard?
On est entré dans une guerre froide 3.0 et les observateurs israéliens ont tendance à dire que c'est la guerre froide, la première guerre froide qui s'est terminée en 1991, qui ressurgirait de façon similaire. c'est une comparaison qui n'est pas exacte et ce n'est qu'une apparence. Effectivement, on est entré dans une nouvelle guerre froide. L'objectif, ce n'est pas seulement Moscou, c'est Moscou et Pékin. Et les deux blocs se reconstituent. Il y a un bloc de l'Est avec Moscou, Pékin et Téhéran, et il y a un bloc américano-occidental qui est une alliance des puissances maritimes françaises, émiraties, australiennes, japonaises, etc., derrière la puissance maritime américaine. Mais ce qui a profondément changé, justement, c'est la nature des rapports stratégiques au sein de ces deux blocs. La première guerre froide, elle s'était caractérisée par l'alliance de la Chine avec les Américains contre les Soviétiques après le voyage de Kissinger et de Nixon en 1962. C'est l'alliance chinoise qui explique la défaite en Afghanistan lors de la première guerre d'Afghanistan des Soviétiques. C'est l'alliance de la Chine qui explique la défaite des Soviétiques. Les Chinois d'ailleurs vont être très mal récompensés puisque dès que l'URSS a été abattue, les Américains ont tenté un changement de régime pro-occidental avec l'opération géopolitique de Tiananmen en Chine. Aujourd'hui, c'est terminé tout ça. Les Chinois ont compris que leur lien géopolitique, c'était avec la Russie. Ils mènent une alliance géopolitique dos à dos, c'est-à-dire que la Chine et Moscou excluent tout conflit entre eux. Ils s'appuient mutuellement vers leur zone d'expansion naturelle. C'est l'Eurasie pour la Russie et l'Asie centrale. C'est la mer de Chine et le Pacifique pour la Chine. C'est cela qui a changé. Au milieu de tout cela, évidemment, cette alliance stratégique est là des conséquences directes, non seulement dans la question palestinienne, mais également pour le Liban, mais également pour la Syrie et la guerre de Syrie. Ce qui va se poser d'ailleurs en question, c'est la reconstruction de la Syrie et du Liban. Et les investisseurs israéliens, si on ne tient compte que des intérêts économiques, puisque dans le cas des Chinois, c'est ça qui est le plus important, alors que les Russes, c'est la géopolitique, bien certains, le chantier de reconstruction arabe, syro-libanais, est évidemment de plus grande importance que le développement du port de Jaffa.
Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles, maître Arnaud de Velay, juriste international et analyste politique depuis Damas. Je vous remercie infiniment d'avoir apporté ces éclairages à cette émission. Merci beaucoup.
À bientôt.
À très bientôt. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de votre attention. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.
Pays des merveilles. L'Iran est certes le pays des merveilles, des arts et des beautés. De par sa nature diversifiée et sa culture variée, en passant par ses sites et monuments historiques datant de millénaires, sans oublier ses arts sophistiqués, l'Iran surprend tout un chacun qui lit, entend, parler ou visite ce pays. Cette série d'émissions qui s'intitule « Iran, pays des merveilles » vous fera découvrir, tant soit peu, la terre de Perse, riche d'une histoire et d'une civilisation plurimillénaire. Très chers amis auditeurs, merci d'être avec nous pour écouter une autre édition de la série d'émissions « Iran, pays des merveilles ». Aujourd'hui, nous vous emmenons à Kashan, une belle ville de la province d'Ispahan. Nous vous parlerons d'abord de la fête des roses et du tapis de cette ville. Commençons par quelques lignes sur le célèbre tapis de Kashan. À Kashan, ville qui est depuis longtemps le centre du tapis de qualité, près d'un habitant sur trois est employé à la fabrication de tapis
et parmi ceux-ci, plus de 2/3 sont des femmes. Le processus de fabrication des tapis commence par un dessin, élaboré en puisant parmi un ensemble de styles établis avec des motifs de fleurs, de feuilles, de branches, d'animaux et de scènes inspirées de l'histoire. Le métier à tisser employé est appelé dor. Les fils de chaîne et de trame sont en coton ou en soie. Le tapis est réalisé en nouant des brins de laine ou de soie sur la chaîne selon une technique appelée point de farci. L'artisanat s'est interrompu à Kashan entre l'invasion des Afghans 1722 et la fin du 19e siècle. Les premiers exemplaires de la reprise de l'art sont appelés Kashan Motashemi, vraisemblablement d'après le nom d'un artisan. Les tapis de Kashan figurent parmi les meilleurs d'Iran en raison de la qualité de leur laine, de leur nouage extrêmement serré et de la beauté des coloris et des dessins. Le fond est presque toujours orné d'un médaillon central qui se termine en haut et en bas par deux couronnes fleuries. Sur le reste du fond s'entrelacent fleurs et rinceaux. La bordure est le plus souvent ornée du motif errati pour la bande centrale et de rosace pour les bandes secondaires. Certains exemplaires sont à sujet et noués de soie. Le fond des Kashan est souvent de couleur rouge brique ou bleu foncé. Un tapis à fond bleu a souvent un médaillon et des bordures rouges et vice-versa. Le Panjrang, 5 couleurs, est noué uniquement avec des laines de 5 couleurs. Le fond est généralement ivoire et les motifs dans divers tons de beige, gris et bleu azur. Le style de tissage farci, également appelé nœud asymétrique, est pratiqué à Kashan avec une délicatesse exceptionnelle dont témoigne le dessous du tapis avec ses nœuds fins et réguliers. Les tapis de Kashan doivent leur coloris à l'emploi de teintures naturelles, issues notamment de la garance, du brou de noix, de la peau de grenade et de la feuille de vigne. Le savoir-faire traditionnel du tissage des tapis de Kashan sont transmis aux filles par apprentissage auprès de leur mère et grand-mère. C'est également par apprentissage que les hommes acquièrent les techniques de dessin, de teinture, de tonte des moutons, de fabrication des métiers et outils. Les Iraniens comptent parmi les premiers peuples à avoir découvert les vertus nutritives et médicales de la rose. Sa couleur et son parfum calment le stress et ses pétales roses tirant sur le rouge ont toujours décoré les maisons iraniennes. Que ce soit dans la parfumerie ou depuis toujours son essence donne forme aux géniales idées des maîtres de l'odorat, à la gastronomie, ou séchée ou sous forme d'essence, elle est d'aromates. Cette fleur, reine sans conteste de ses semblables, est depuis des siècles la préférée des habitants et des cultivateurs de Ramsar à Kashan. On ne connaît guère la terre d'origine de cette rose, la plus appréciée des parfumeurs, et les spéculations vont bon train, mais il n'est pas impossible qu'elle soit iranienne, puisque c'est de l'Iran qu'elle fut emmenée ailleurs, notamment en Bulgarie, où elle s'adapta et est aujourd'hui cultivée à grande échelle pour son essence. Aujourd'hui, la Bulgarie est le plus grand producteur d'essence de rose, essence obtenue des roses de Damas cultivées dans la région de Kazanlak ou Vallée des Roses, où, au XVIIe siècle, un gouverneur turc planta pour la première fois cette fleur qu'il avait emportée avec lui d'un voyage à Kashan en Perse. C'est également de Perse que Robert de Bory, un croisé français, emporta quelques boutures de roses en France en 1234. Ces roses furent d'abord plantées à Provins, dont elles prirent le nom pour devenir la rose de Provins ou Rosa Gallica. Une anecdote historique circule également au sujet du nom de la rose de Damas. Selon les chroniques, ce fut un gouverneur byzantin en visite à Ramsar, à Kashan en Iran, qui, séduit par la fragrance des roses de la région, en emporta quelques boutures à Damas. C'est ainsi que cette fleur, la rose d'Iran, par excellence, devint célèbre sous le nom de Rosa Damascena. Quoi qu'il en soit, en Iran, c'est dans la région de Kashan, et plus particulièrement à Ramsar, que cette rose est cultivée. La culture de la rose n'est pas une nouveauté en Iran. L'histoire de la distillation, l'exportation et l'utilisation des essences florales à des buts médicaux, cosmétiques et gastronomiques remonte en Iran à l'Antiquité, où on produisait et consommait les eaux et les essences florales et aromatiques dans toutes les régions du vaste empire perse. Ainsi, les fleurs ont toujours occupé une place importante dans la médecine traditionnelle de l'Iran pré-islamique, c'est-à-dire la médecine des plantes. Les tablettes et les bas-reliefs de Persépolis traitant de ce sujet sont la preuve formelle de l'importance des fleurs dans la société iranienne, médicalement et généralement parlant. À ce sujet, on peut faire allusion au canon du grand savant iranien Avicenne. Ouvrage de médecine écrit il y a 1000 ans et enseigné jusqu'au début du XIXe siècle dans les facultés de médecine européenne, qui évoque dans des contextes différents l'utilisation de la rose en tant que remède à plusieurs maladies. La capitale des roses est depuis toujours Ramsar, ville de la région de Kashan. Chaque mois de mai, les cultivateurs lancent la récolte au son de musique et de prières traditionnelles, et la récolte et la distillation de la rose sont aujourd'hui plus que jamais une cérémonie qui attire chaque année des milliers de visiteurs. Poésie mise à part, c'est à Ramsar que la distillation et l'obtention de l'essence et de l'eau de rose deviennent industrielles ou plutôt commerciales, c'est-à-dire que sa production prit une ampleur inédite jusqu'alors et devint quasiment un produit d'exportation, car avant cette révolution, les essences florales n'étaient produites en Iran qu'à très petites doses en tant que médicaments. On peut citer à titre de preuve le journal du voyage du chevalier Chardin en Perse et autres lieux de l'Orient de Chardin à la fin du XVIIe siècle, sous le règne des Safavides. Dans un chapitre de son ouvrage, Chardin relate son passage à Ramsar et décrit en détail l'industrie et le commerce des essences et eaux florales en Iran, en précisant que ces eaux et essences sont exportées dans toute l'Asie. Vu les difficultés du voyage, l'absence de voies de communication adéquates et de moyens de transport, il est facile d'imaginer l'importance de cette industrie en Iran, puisque malgré tous les obstacles existants, la production était suffisamment importante pour être exportée. Autre preuve de cette importance, la grande encyclopédie des Hoda qui précise dans son article Ramsar que le plus important produit de la région est la rose et que chacun des quelques 70 ateliers de cette ville en utilise une demi-tonne par jour. Quoi qu'il en soit, cette industrie, bien qu'encore artisanale et très peu industrialisée, a permis dans une certaine mesure l'essor économique de la région. De plus, les ateliers existants aident à la création d'emplois liés à la diversification des produits dérivés de la rose. Voilà, c'est tout pour cette semaine. La prochaine fois, nous vous parlerons des monuments historiques de Kashan, une des belles villes de la province d'Ispahan. N'oubliez pas donc de nous accompagner dans cette promenade touristique. D'ici là, au revoir et bonne semaine.
Thank you.